Très bien, bah écoutez, nous allons commencer. Merci beaucoup d'être parmi nous pour cette troisième conférence du cycle de conférences du Centre de recherche en droit public et de la Faculté de droit. Nous accueillons aujourd'hui avec un très grand plaisir Madame Jeanne Simard, qui est professeure au département de sciences économiques et administratives de l'Université du Québec à Chicoutimi. Madame Simard est avocate. Et aussi administratrice, administrateur agréé, et elle est aussi violoncelliste, puisqu'elle a fait des études au Conservatoire de musique de Chicoutimi. Elle a fait sa maîtrise en droit commercial et en droit administratif à l'Université Laval, et son doctorat dans notre université, sous la direction de notre collègue Pierre André Côté. Elle a publié de nombreux articles et ouvrages, en particulier dans le domaine des aspects légo-éthiques et de la déontologie des administrateurs. Et elle va nous entretenir aujourd'hui de l'interprétation musicale comme analogue à l'interprétation des lois. Et je lui cède la parole et en la remerciant d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui.
Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Directeur. Effectivement, ça me fait extrêmement plaisir que le Centre de droit public m'ait invité pour ce cycle de conférences. Je remercie tout particulièrement Mme Gendreau, avec qui j'ai communiqué à quelques occasions, pour son invitation. Et je voudrais aussi souligner mon grand plaisir que mon ancien directeur de doctorat, M. Pierre-André Côté, soit dans la salle. Alors, M. Côté, j'ai vraiment des très, très bons souvenirs, effectivement, de nos recherches. Alors, merci beaucoup d'être là. Alors, bonjour à vous tous. Je suis surprise de voir autant de personnes pour venir écouter une conférence, un petit peu inusitée, hein, je vous dirais, entre l'interprétation musicale et l'interprétation des lois. Mais avant de commencer la conférence, je voudrais quand même vous dire que cette conférence-là était quand même une conférence multidisciplinaire. Alors, je veux vous dire qu'il y a beaucoup de personnes quand même qui m'ont aidé à préparer la conférence parce qu'il faut quand même être quand même pas trop mal en musique, en droit et en sociologie. Alors, pour ce qui est de la musique, j'ai fait moi aussi un petit peu j'ai fait du conservatoire comme violoncelliste, mais mon père, il faut que j'avoue que mon père est professeur au conservatoire, était professeur pendant 30 ans au conservatoire de Chicoutimi, était professeur en solfège et en matière théorique, et en chant surtout. Alors, il m'a aidé, ainsi qu'un recherchiste de l'Université du Québec à Chicoutimi, monsieur de la Salonnière, qui a fait énormément de recherches pour moi et qui est un musicien aussi. Alors, il adorait le sujet. Et aussi, il y avait l'aspect peut-être plus sociologique et non pas le moindre. Alors, je travaille beaucoup avec M. Marc-André Morency, qui est professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi, qui est ici présent. Alors, tout le volet peut-être plus sociologique, j'ai travaillé avec lui. Et d'ailleurs, le texte qui sera éventuellement, vous m'avez dit, Mme Gendreau, peut-être disponible sur le site du centre, vous allez voir qu'on est co-auteur. Alors, je ne vais pas prendre toutes les mérites. C'est ce que je voulais vous dire dès le départ. Alors, pour commencer, alors au cours de mes recherches doctorales, je vous avoue que j'ai été amenée à réfléchir sur les rapports existants entre l'interprétation musicale et l'interprétation des lois. Je peux vous dire que c'est ma formation de musicienne et de juriste qui m'a donné l'impulsion de départ, je veux dire l'intuition de la valeur d'une telle réflexion. Sur un plan plus rationnel, si je retiens actuellement la musique plutôt qu'un autre art pour le comparer au droit, c'est que contrairement à la peinture ou à la sculpture, dont l'action de l'artiste sur une matière impose un état définitif, la musique se présente avant tout comme un art du temps, quelque chose de virtuel qui ne s'achève que dans l'exécution qui l'actualise. Alors le musicien trouve toujours l'œuvre en lui. Comme l'affirme la pianiste, philosophe et musicologue Gisèle Brelet, la permanence de l'œuvre n'est plus celle de l'objet, mais l'éternelle actualité de l'acte par lequel elle peut sans cesse être refaite. Ce type d'expression artistique qu'est la musique rejoint donc à ce niveau l'interprétation des textes écrits, qu'ils soient ou non juridiques, car ceux-ci doivent être réinterprétés chaque fois qu'ils sont lus et par là même mis en œuvre. Cette conception rejoint la pensée de M. John Chipman Gray, un précurseur du réalisme juridique pour qui les textes que nous appelons lois ne sont pas des lois en action, mais seulement une source de droit. Car les lois en action requièrent une interprétation et une application pour devenir une pratique sociale de régulation suscitant l'adhésion du public. En musique, les préludes de Chopin sont plus qu'un ensemble de signes sur une partition. Ces signes sont plutôt un ensemble de pistes à parcourir qui permettent à l'interprète de produire une exécution vivante et séduisante. Mais pourquoi ne pas avoir choisi, comme tant d'autres, de comparer l'interprétation du droit à l'interprétation littéraire, par exemple? C'est à mon avis que l'interprétation du droit, ce n'est pas qu'un écrit. Tout comme l'interprétation de la musique, elle implique un triangle d'influence réciproque entre le créateur du texte, l'interprète ou les interprètes et les auditoires qui sont affectés par la mise en œuvre de ces interprétations. En littérature, l'interprète et le lecteur bien souvent ne font qu'un. Cette expérience, on dit, quand on a une expérience personnelle de lecture, par exemple d'un roman ou d'une poésie, ça demeure toujours de façon générale dans le domaine privé. Il y a donc moins de responsabilités pour l'interprète et moins de variables en cause. Par exemple, lorsque des textes racistes ou offensants sont lus à voix basse entre les quatre murs d'un salon, on est toujours plus indulgent. A contrario, en musique et en droit, les interprètes se voient conférer des responsabilités vis-à-vis des publics complexes, actuels et à venir, lesquels peuvent se sentir blessés ou offensés par une interprétation ne respectant pas leur attente ou leurs valeurs. Le travail de l'interprète, en musique comme en droit, en est donc un de négociation et de lutte incessante pour faire accepter sur le champ ou plus tard des normes sociales qui ne vont pas cesser d'évoluer avec le temps. La reconnaissance d'une interprétation ne peut pas être séparée la reconnaissance d'une interprétation ne peut pas être séparée de sa recréation. Ainsi, une bonne loi, une bonne interprétation créatrice peuvent rencontrer une résidence complètement inattendue. Nijinsky, dansant le prélude à l'après-midi d'un fond de Debussy, produisit un véritable scandale à son époque. Tracer un parallèle entre l'interprétation juridique et l'interprétation musicale n'est pas, à vrai dire, tout à fait nouveau. Cet exercice a déjà été initié, quoique de façon sommaire, par certains juristes qui se sont penchés sur le phénomène de l'herméneutique juridique et ont osé contester la stabilité et la prétendue fixité du droit que lui prête la théorie traditionnelle de l'interprétation centrée sur l'intention du législateur. Ainsi, Michel Villet avançait en 1972 que « l'art du juriste ne se réduit pas à l'application du texte. Le juriste poursuit le travail du législateur en œuvrant dans le même esprit. » Alors, sa fonction ressemblerait plutôt à celle de l'interprète musicien, auquel les notes de musique ne disent pas tout, qui, grâce aux notes, mais en usant d'autres indications, cherche à s'imprégner de l'esprit du compositeur dont il prolonge la création. Plus près de nous, dans un article paru en 1990 dans la Revue du Barreau, le professeur Pierre-André Côté a fait appel lui aussi à la métaphore de l'interprétation musicale pour rendre compte de l'interprétation juridique et mettre en relief ces différentes idéologies. Pierre-André Conté compare l'interprète de noix au récitaliste, rappelant que la musique produite par l'interprète ne sort pas mécaniquement de son instrument. L'exécution résulte d'une activité artistique créatrice et emporte inévitablement la marque. De plus, Pierre-André Côté établit un rapprochement fort à propos entre l'interprétation juridique traditionnelle, voulant que le praticien s'en tienne à l'intention du législateur, et le mouvement historicisme, qui faisait rage en musique il y a quelques années. Ce mouvement concevait, vous rappelez, comme une valeur absolue indispensable à la découverte de sa vérité, la reconstitution du texte exact de l'œuvre dans son environnement d'origine, obligeant les interprètes musiciens à recourir aux décors, aux costumes, aux partitions d'origine et aux instruments anciens. Le professeur Côté dégageait un enseignement critique pertinent à mon propos, et je le cite. La controverse qui entoure le retour aux instruments et styles anciens dans l'exécution musicale enseigne que la fidélité au passé n'est pas nécessairement garante de la qualité de l'exécution d'une œuvre musicale, tout comme le respect de l'intention du législateur à lui seul ne constitue pas un gage de la qualité de l'interprétation. Ajoutons qu'un rapprochement entre le droit et la musique a aussi intéressé la renommée juriste française Mireille Dalmas-Marty. Dans son dernier livre intitulé « Le pluralisme ordonné », paru en 2006, qui traite du problème de l'harmonisation des différentes valeurs et des ordres normatifs au sein d'un nouvel ordre mondial, la professeure Dalmas-Marty nous rappelle que dans les temps anciens, la loi était associée au chant et à la poésie. Les premières lois furent en fait formulées sous forme de poèmes qui, avant l'invention de l'écriture, se fixaient plus facilement dans les mémoires, étant formulées, et étant chantées. D'ailleurs, le terme grec nomos, qui veut dire norme, se traduit en latin par le mot lex et cantus, qui veut dire loi et chant. Sur un ton humoristique, elle mentionne que si il est à craindre que les législateurs actuels aient quelque peu perdu le sens poétique et musical, la musique n'en aide pas moins à comprendre comment la diversité, loin de s'opposer à l'harmonie, peut y contribuer. L'harmonie est un raisonner ensemble, et raisonner ensemble est un dire ensemble, mentionne-t-elle. Toutefois, je suis consciente qu'il existe quand même des limites à un rapprochement entre la musique et le droit, car ces deux disciplines pratiques utilisent des langages très différents. Le musicien travaille avec des partitions, des notes, des rythmes, des styles, tandis que le juriste opère grâce à des signes linguistiques qui bien souvent sont imprécis et par là même susceptibles de polysémie. Mais surtout, l'interprétation musicale visant une expression artistique ne s'impose pas d'elle-même, alors qu'une interprétation juridique possède un caractère beaucoup plus impératif. Ainsi, l'intérêt de découvrir des analogies entre ces deux disciplines pratiques n'est pas de construire ou de découvrir une théorie d'interprétation qui serait transdisciplinaire et qui pourrait s'appliquer à tous les types de textes. Sur le plan épistémologique, ce serait là une grave erreur. L'intérêt de mon propos consiste plutôt à prendre du recul afin de replacer l'acte d'interpréter en général au cœur des rapports sociaux, des pratiques et de voir tous les acteurs du processus dont le public y participe pleinement. On peut alors espérer construire un modèle ou un schéma de l'activité d'interprétation, non de l'automatiser sur des bases théoriques. D'ailleurs, j'ai maintenant le bonheur de voir des juristes aborder ces questions depuis la fin des années 90, et tout récemment encore dans un même esprit. Ainsi, les professeurs Sanford Levinson de l'Université, la Faculté de droit de l'Université du Texas et de M. Jack Balking de Harvard, ont engagé dans quelques articles un débat fort intéressant avec les professeurs Richard Posner et Robin West sur la propos d'établir des analogies entre l'interprétation des lois et l'interprétation des œuvres littéraires ou musicales. La position qu'adaptent Levinson et Balking, qui est aussi la mienne, je l'avoue, est que si dans une perspective pragmatique, c'est-à-dire produite pour et par des praticiens ou des interprètes, il s'avère utile, en dehors de toute recherche d'une théorie générale de l'interprétation, de voir s'il n'existe pas des problèmes similaires, des pratiques analogues, des situations qui influent sur tous ces domaines en même temps. On ne peut pas faire comme si toutes les activités d'interprétation se produisaient en faisant abstraction des courants de pensée ayant cours, comme s'ils ne naissaient pas ou ne mouraient pas des tendances, des figures de l'action humaine. D'où ce point de vue bien pragmatique qui veut examiner les champs de force, les rivalités, les actions qui font et défont les formes dans différents domaines de la vie sociale. Pour le pragmatique, le sens commun naît au sein de l'activité des rapports sociaux et non dans un empiré dominé par un sublime Jupiter, faiseur de lois et de sens, indépendant, sinon méprisant du monde inférieur des acteurs en vue, en somme, vu de bien haut. Une épistémologie pragmatique autorise et favorise l'examen simultané des diverses dimensions apparentées regroupées dans la figure triangulaire d'influence réciproque entre créateur du texte, l'interprète et les auditoires, figure que je vous ai déjà mentionnée plus tôt. Ayant ici esquissé les bases épistémologiques de ce travail, l'exposé peut maintenant se déployer en deux parties. Dans un premier temps, je verrai dans une perspective historique que l'interprétation de la musique et l'interprétation du droit ont connu des débats similaires. Ainsi, depuis quelques siècles, la controverse oppose un vif débat entre étonnant d'une exécution respectueuse de la volonté concrète du compositeur et leur opposant qui privilégie une exécution où l'artiste participe activement à la création de l'œuvre pour la faire accepter de l'auditoire. Pour un Ravel, pour qui l'interprète n'a qu'à jouer ce qui est écrit, un Mahler affirme que l'essentiel de sa musique ne se trouve pas dans ses partitions. Cette réflexion m'amènera dans un deuxième temps à montrer que l'interprétation en art, et plus particulièrement en musique, rejoint plus qu'on ne le pense sur le plan symbolique certains aspects incontournables de la fonction judiciaire actuelle. Le juge, l'interprète, doit développer une sensibilité nouvelle à ses dynamiques matérielles et collectives. Nous verrons en fait s'organiser la rencontre d'Hermès et d'Euterpe. Hermès, c'est la figure du juge contemporain présentée par professeur François Hoss dans plusieurs de ses articles, où il apparaît comme un virtuose du jeu du langage, un être réfléchissant qui ne ramène pas le jugement juridique à l'improvisation ni à la simple détermination d'une règle supérieure. Ce juge, comme le praticien réflexif, occupe l'espace de jeu que lui impose désormais la complexité de la vie sociale avec ses nombreux ordres normatifs en compétition et où il s'engage dans un processus de délibération éthique. Cet Hermès finit par rencontrer Euterpe, la toute réjouissante, une figure féminine, muse de la musique qui sait en virtuose au sein de sa flûte apaiser les dieux et enchanter les humains. C'est cette histoire toujours en émergence que l'on aborde maintenant ensemble. Alors, prenons un peu de temps pour mettre à nu le texte musical. Les courants interprétatifs musicaux peuvent se diviser en cinq périodes, sept grandes périodes. Il y a le Moyen Âge, la période baroque, la période classique, le mouvement romantique, le 19e siècle et les courants modernes et postmodernes du 20e siècle. Or, à toutes ces époques, l'interprète se voit confronté au dilemme provenant des trois figures ou idéals types de l'interprète. La musique jupitérienne, imposée par un compositeur tout-puissant et immuable, ne laissant aucune place à l'interprète. Il y a l'interprète herculéen, improvisant selon son beau vouloir. Et enfin, le couple Hermès-Euterpe, improvisant selon son... Hermès-Euterpe, qui établissent les ponts entre différentes possibilités ou contraintes d'où surgissent des potentiels créatrices pour des contextes toujours nouveaux. Alors, on va voir au départ, rapidement, l'interprétation musicale du Moyen Âge. Moyen Âge, pour vous situer, moi, à peu près l'époque que j'ai choisie, c'est 476 à 1472. Pour ceux qui aiment la musique et qui connaissent, c'est l'époque de Pérotin. C'est l'époque aussi de Josquin des Prés. Alors, au début de la musique occidentale, il faut avouer qu'il y avait absence complètement de notation précise. On se sert alors de neumes, c'est-à-dire des petites marques placées au-dessus des paroles pour indiquer la ligne mélodique. L'apprentissage des mélodies se fait donc par le biais de la tradition orale et de façon anonyme. Alors, c'était très dur, il fallait répéter énormément. Alors, dans le but de faciliter l'enseignement du chant et de dans son monastère, on dit que le moine bénédictin qui s'appelait Guy d'Arezzo invente en 1020. Un procédé de notation musicale mettant en relief un système et un code. C'est le début du solfège. De l'italien, ça vient de l'italien solfeggio, et qui lui-même dérivé des notes sol et fa. À l'époque, ce procédé de notation dispose d'un certain nombre de symboles, dont ceux concernant la hauteur des sons. Et parmi ces symboles-là, on avait juste un cycle de six notes. C'est lui qui a inventé ça. Alors, je vous dirais que les syllabes des notes sont choisies, ont été choisies à partir d'un hymne à Saint-Jean-Baptiste. Et aussi, la personne en question a fait une disposition des notes sur une portée aussi, qui comportait à l'époque uniquement quatre lignes. Maintenant, on en comporte cinq, mais à l'époque, il y en avait juste cinq. Quatre. Alors, pour cette nouvelle notation, les chanteurs du Moyen Âge étaient délivrés d'obligation d'apprendre par cœur l'ensemble de la liturgie musicale. La musique pouvait être plus aisément composée, transmise et conservée. Conséquence inattendue sur le plan social, la création de la notation musicale va créer une distinction entre les musiciens. On aura dorénavant le compositeur d'une part et les interprètes d'autre part. Au fil des siècles, ces distinctions allaient s'affirmer de plus en plus, alors que la notation musicale se perfectionne peu à peu. Au XIIe siècle, les compositeurs de l'école de Notre-Dame de Paris forgent de toutes pièces un système rythmique. Vers 1260, Franco de Cologne affecte une figure de note spécifique à chaque valeur de durée. Vers 1320, Philippe de Vitry, qui était alors évêque de Meaux, publie l'Ars Nova, dont la question centrale vise la notation du rythme. Les partitions deviennent très rigides et très complexes. La musique s'élabore avant tout sur le papier et de façon abstraite. Le compositeur devient de plus en plus insensible aux contraintes concrètes de l'exécution et de la réception par l'auditoire. On interdit aux interprètes une quelconque invention personnelle. On se trouve ainsi à avoir transporté la musique dans un ordre normatif, ludique, assimilé à une loi, avec toutes les conséquences d'un tel transfert. Les structures existantes de l'expression musicale en sont toutes ébranlées. Le compositeur devient dominant après plusieurs siècles d'anonymat. L'interprète, pour sa part, se voit transformé en serviteur de la composition dont l'authenticité et la vérité sera assurée par le respect de la fidélité au texte. Jupiter s'est fait souverain en musique au Moyen Âge, ainsi qu'à la Renaissance. Ce mouvement sera accentué par l'introduction et la diffusion de masse que permet l'imprimerie. Maintenant, au niveau de l'interprétation musicale, au niveau de la Renaissance et de la période baroque, Renaissance, c'est le 16e, baroque, 1580 à 1750 à peu près. Alors, il faut attendre le 16e siècle pour qu'apparaissent les premiers interprètes au sens où nous l'entendons présentement. On associe cette transformation au mouvement qui définissent la Renaissance, l'humanisme et l'individualisme, et plus tard, le libre arbitre et la réforme. La notation des œuvres musicales se simplifie, devient plus claire, plus facilement lisible, permettant la participation active des auditoires religieux ou profanes. On privilégie la collaboration du compositeur avec les interprètes et même l'invention personnelle de ces derniers qui entendent se distinguer de la masse pour devenir solistes et parfois virtuoses. Le musicologue Jean-François Viret nous dit que le langage musical se veut désormais le véhicule de sentiments et d'émotions que l'exécutant se devra de communiquer aux auditeurs. Pour ce faire, les partitions deviennent avares en indications, l'intention du compositeur se faisant de plus en plus discrète. On permet aux interprètes d'improviser, d'ajouter librement des cadences, des points d'orgue, des variations mélodiques, des ornements à la trame. On leur permet même de supprimer des variations s'ils les jugent trop difficiles à exécuter. On adopte ainsi un système de symboles ouverts dans la notation musicale, dont l'appréciation est confiée à l'interprète et qui lui permettent ainsi de s'adapter aux différents auditoires qui se présentent à lui. Parmi ces symboles ouverts, on retrouve notamment les nuances, puis entre autres, bon, vous savez, un son doux, les pianissimo, aller jusqu'à fortissimo. Et on trouve aussi tout ce qui concerne l'ornementation, c'est un signe ouvert qui permet d'embellir un fragment mélodique, mais par des broderies, des choses comme ça. À l'exception de Bach, très minutieux de la notation de ses partitions, plusieurs compositeurs comme Handel et Rameau rédigent sommairement la partie du soliste pour lui accorder de la liberté lors de l'exécution. Handel n'hésite jamais, selon les circonstances, à éliminer, à remplacer, à adapter son œuvre. François Couperin, quant à lui, déclare « Nous écrivons différemment de ce que nous exécutons ». On peut donc résumer en disant que cette époque voit une nette régression de la rigidité des règles d'interprétation. Pour produire un discours musical vivant et sensible, les interprètes se trouvent plutôt à devoir procéder grâce à une combinaison de traditions orales, de principes, de conventions, d'inventions, de manière à structurer le bon goût dans l'interprétation et l'appréciation de la musique. On a souci d'aller chercher le public. On est déjà tout près d'Hermès Euterpe, même si les figures d'Hercule et de Jupiter se dressent toujours à l'horizon. Pour la période classique maintenant, de 1700 à peu près 50 à 1820, alors il y a une réaction des compositeurs qui s'est ensuite fait sentir vraiment vivement devant la licence des interprètes qui révélaient un peu trop leur personnalité dans l'exécution des œuvres. Cette réaction qui va durer jusqu'au début du 19e et que certains appellent la période classique s'est caractérisée graduellement par l'exigence des compositeurs à ce que leur volonté soit respectée et reconnue. Le compositeur entend se libérer de la servitude qui caractérise son statut social, mais il doit alors valoriser ses contributions propres sur le marché de l'art en émergence. L'interprète dans son nouveau répertoire des statuts sociaux de la musique est alors vu comme un simple intermédiaire entre le compositeur et le public. La partition écrite redevient de plus en plus détaillée, car le compositeur essaie de fixer avec la plus grande minutie son intention. Et la liberté de choix de l'instrument encore laissée à l'interprète au siècle précédent disparaît, mais totalement. L'interprète fait donc un véritable effort pour que son exécution demeure neutre, purifiée en quelque sorte de toute manifestation de sa personnalité, afin de retrouver intact le message d'origine du compositeur. Le compositeur se présente alors sous la figure d'un Jupiter pointilleux à l'extrême. Pour la période romantique, qui est à peu près 19e, cette conception de l'interprétation musicale de la période classique va même se poursuivre jusqu'à l'époque romantique, alors que les exigences techniques et musicales du compositeur face à l'interprète se complexifient encore. Les perfectionnements apportés aux instruments multiplient je vous dirais, les possibilités et les difficultés en matière de puissance, de sonorité, de registre et de nuance. On voit alors se développer une recherche de virtuosité chez l'interprète. Les solistes, et plus particulièrement les chanteurs, deviennent des vedettes de spectacle, voire des primadonnas, que le public vient voir avant tout. Le rôle de l'interprète prend tellement d'importance avec cette multiplication des difficultés que vers la fin du 19e, les compositeurs comprennent, peut-être à contre-cœur, mais ils comprennent que s'ils veulent que leur œuvre soit connue, acceptée et aimée du grand public, ils ne peuvent se passer de ces vedettes. Ils doivent donc leur reconnaître un droit d'interprétation exceptionnel sur les partitions avec possibilité de les agrémenter de broderies de leur cru. Il émerge alors une sorte de duel et de connivence à la fois, impliquant d'une part les interprètes, les chefs d'orchestre qui eux aussi sont devenus des vedettes, et les compositeurs. On voit les interprètes exiger que leur talent soit reconnu et qu'on leur ouvre des espaces de création. Par contre, les compositeurs défendent de plus en plus jalousement la lettre de leur partition. Essentiellement, la période romantique voit se développer une confrontation entre Jupiter et Hercule. Mais le public reste encore assez en retrait de ces luttes, sinon pour appuyer l'un ou l'autre de ses rivaux. Ce qui va changer la donne à l'époque contemporaine, c'est que précisément, la place du public dans l'espace de la création artistique est, et plus généralement dans l'espace social et politique du 20e siècle. Le 20e siècle, maintenant, est riche en développement de courants musicaux qui paraissent liés en quelque sorte aux grandes transformations de la société. La plupart des compositeurs cherchent de nouveaux horizons, de nouveaux outils pour s'exprimer. Pour ce faire, on va constater, voire même favoriser, l'éclatement des structures traditionnelles. Ces manifestations de la conscience critique ont un caractère extrêmement complexe car il accompagne des changements de grande envergure dans les rapports sociaux et politiques tout au long de ce siècle. Sur la scène politique, les nouveaux rapports de force vont altérer directement la substance artistique. Pensons aux grandes tentations totalitaires, le nazisme, le communisme soviétique, le communisme chinois avec sa révolution culturelle, ainsi que l'intégrisme. L'artiste, est mis en demeure de contribuer à ces refondations sociales. Il est jugé par le public averti selon qu'il sait s'engager ou pas. Par contraste, dans les sociétés bourgeoises, l'artiste a pu chercher à s'engager librement et personnellement dans la critique de son propre milieu, comme d'autres mouvements artistiques qui l'avaient précédé. Par exemple, dans le temps du romantisme, en tant que mouvement de retour à la nature. La critique n'épargne aucune dimension des ordres sociaux en place et le droit ne fait pas exception à cette remise en question. Le problème de la vérité et de l'authenticité de l'interprétation n'aura jamais été aussi discuté et débattu qu'au 20e siècle. Quel est le juste équilibre à trouver entre le rapport triangulaire des influences réciproques que forment le créateur du texte, l'interprète et les auditoires qui sont affectés par la mise en œuvre de ces interprétations? Une nouvelle figure prend place dans le dialogue relatif à l'interprétation. Jupiter, Hercule voient Hermès Euterpe se joindre au combat comme médiateur, mais aussi comme libre promoteur d'une nouvelle synthèse fondée en éthique cette fois, plutôt que seulement sur les normes établies. Voyons le tableau. Le premier groupe en faveur du respect de la lettre des partitions réunit trois mouvements distincts. D'une part, certains compositeurs ont recours à une écriture plus précise et croient qu'en utilisant des instruments d'une parfaite fidélité, comme des instruments mécaniques, piano par exemple, il serait possible de communiquer au public une musique authentique, une interprétation fidèle de la pensée du compositeur. Mais ce retour n'eut pas le succès escompté. Le compositeur Stravinsky, pourtant un ardent défenseur du strict respect de la partition, il avait même formulé le souhait d'établir lui-même une interprétation qui serait immuable de ses œuvres grâce à l'enregistrement, avouant à la fin de sa vie que le rôle créateur de l'interprète dans la production musicale était indispensable à la qualité d'une œuvre. Dans les journaux, vous avez dû voir dernièrement que plus récemment, on a pris un piano Yamaha automatisé qui a fait concert sur une scène à Toronto à partir d'un enregistrement de Glenn Gould. Cette performance, qui était restituée à l'identique, n'a pas fait l'unanimité loin de là. Glenn Gould, en train de créer, n'y était pas, tout simplement. D'autre part, plusieurs compositeurs ont essayé, avec l'avènement de la nouvelle technologie, d'éliminer l'interprète du circuit compositionnel en intégrant l'instrumental à l'électronique. Enfin, toujours dans ce grand groupe-là, on ne saurait négliger l'importance du mouvement historiciste qu'on appelle la Early Music, qui cherche, dont me mentionnait M. Côté, qui cherche à tout prix l'exécution authentique de la musique ancienne, principalement de l'époque pré-baroque. Avec les musiciens d'époque et avec une lecture stricte, sinon rigoriste et même peureuse de la partition écrite, censée transmettre l'intention du compositeur, traité comme un Jupiter, mais là, totalement effrayant. Cette façon de concevoir l'interprétation de la musique dite ancienne a été très vite contestée. On s'est interrogé sur la date de fermeture du concept de la Early Music. La période doit-elle s'arrêter à Schumann, à Liszt? Les interprètes et les maisons d'édition de disques se sont inquiétés de la possibilité de voir leur production, leur interprétation avec des instruments modernes, remise en question. Les implications mercantiles ont fait irruption dans l'interprétation de la musique. Comment savoir si le rendu de la musique par les amateurs de la early music est vraiment conforme à l'intention des compositeurs et aux usages de l'époque? Alors, ce que je cherche là, c'est qu'il n'y a personne qui a vécu à l'époque de Bach où la musique était écrite dans des buts religieux, était produite pour un auditoire de croyants et n'était jouée que quelques fois durant le vivant de la vie de compositeur. Cette prétention à l'authenticité tiendrait en fait d'un pur acte de foi et d'une incompréhension fondamentale de la nature de la création. Par contraste au mouvement de l'early music et des recherches analogues d'authenticité, se sont profilées de nouvelles techniques de composition contemporaine qui considèrent l'interprétation comme un processus dynamique. L'interprète doit assumer une part de responsabilité créatrice et même parfois compositionnelle pour vraiment communiquer avec un auditoire souvent très averti. Dans la musique post-sérielle, je ne sais pas si vous avez déjà vu les partitions, mais c'est assez particulier, il y a des passages entiers qui peuvent être enrichis par l'improvisation de l'interprète. Ce type de création a son propre système de notation. Plusieurs conventions d'écriture traditionnelles ne permettent plus de rendre compte des nouvelles dimensions de l'acte d'interpréter de la musique. On invente enfin un langage visant à inviter l'interprète à développer ses réactions physiques et émotionnelles complexes. L'interprétation peut ainsi interpeller le public particulier comme jamais auparavant. À la limite, ce public devient impliqué dans un processus de délibération collective confrontant plusieurs visions créatrices. Or, même si cette nouvelle forme de musique peut paraître pour certains discutable sur le plan esthétique, c'est vrai qu'on n'en joue pas très souvent à la radio, on y constate tout de même un effort ouvert de collaboration et de compréhension entre le compositeur, les interprètes et les auditoires. Mais je vous dirais que ce qui est marqué au XXe siècle, c'est qu'en théorie et en littérature musicale, on va surtout refuser de choisir entre la figure de Jupiter, c'est-à-dire l'interprétation neutre et objectivante conforme à la lettre venue d'en haut, et la figure d'Hercule, l'interprète charismatique qui s'autorise toute forme d'interprétation. Une bonne performance n'est pas celle qui tend uniquement à retrouver l'intention du compositeur et qui fait du musicien une sorte de conservateur de musique. On comprend qu'il faut plutôt viser une performance humaine, sincère et vivante, capable de communiquer une émotion à un moment précis auprès d'un auditoire bien actuel. On va donc reconnaître la valeur d'un processus dynamique, l'existence d'un triangle d'influence réciproque entre le créateur du texte, l'interprète et les auditoires. Dans ce cadre, l'interprétation de la musique, qu'elle soit ancienne ou contemporaine, sera plutôt vue, même si ce n'est pas toujours dit aussi directement, comme une création sujette à des contraintes. Ainsi, le compositeur et chef d'orchestre Pierre Boulez traduit bien cette nouvelle dialectique lorsqu'il compare la musique au plan d'une ville. Et je le cite, « Il dit, on ne peut pas changer son plan. On l'aperçoit telle qu'elle est. Mais on a différents moyens de la parcourir, différents moyens de la visiter. » Une ville est souvent un labyrinthe aussi. On la visite et on choisit ses propres directions, sa propre démarche, mais il est bien évident que pour découvrir une ville, il faut un plan précis et certaines règles de circulation. Le modèle d'interprétation proposé par le professeur Pierre-André Côté comme alternative à la théorie traditionnelle de l'interprétation des lois peut être considéré comme un analogue en droit de cette vision de l'interprétation de la musique. Selon M. Côté, l'application ou l'exécution sont le résultat d'une production et non pas seulement la découverte des intentions cachées ou implicites du législateur et je dirais là du compositeur. Si les règles formelles comme les partitions ou les textes de loi sont des contraintes qui pèsent sur l'exécution et la création, elles ne sont pas déterminantes au point de ne laisser aucune liberté éthique aux juges ou aux musiciens interprètes impliqués dans le dialogue avec le public concerné. Leur incomplétude laisse un certain jeu, un espace de création, et ce, peu importe que le juge ou le musicien doivent interpréter un texte ancien ou moderne. Jupiter et Hercule ont cédé du terrain alors que Hermès et Euterpe sont bien entrés en scène. En effet, la notation musicale se trouve souvent insuffisante et imprécise. On utilise beaucoup de signes ouverts, comme je vous l'ai mentionné. Les traditions d'interprétation qui n'ont pas été écrites sont souvent oubliées, surtout celles de l'époque baroque et classique. Les instruments ont évolué et sont moins limités dans leurs possibilités sonores ou dynamiques. À titre d'exemple, je ne sais pas si vous savez, mais les cordes en air des violons de l'époque empêchaient l'artiste de produire, vous savez, le vibrato. Quand on voit effectivement qu'il fait ça, on ne pouvait pas le faire. Les cordes n'avaient pas de piston, ce qui les empêchait de produire toutes les notes du système à 12 sons. Du côté des claviers, du clavecin, on a évolué vers le pianoforte, puis vers 1820, au piano moderne, avec sa gamme prolongée de 7 octaves, qui est là depuis à peu près le milieu du 19e. Alors, on s'est posé la question, est-ce que maintenant on va jouer Beethoven? Il n'avait pas composé Beethoven sur un piano moderne. Est-ce qu'on va interpréter Beethoven avec le piano moderne? Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions. Bref, l'imprécision des partitions, la tradition d'interprétation perdue et l'évolution de l'instrumentation permettent ainsi aux interprètes de procéder à des choix qui engagent sensiblement leur personnalité, leur expression, leurs sentiments, leurs croyances et leurs valeurs. On peut parler ainsi à bon escient d'une compétence semi-discrétionnaire des musiciens qui contribuent à créer la musique et à en structurer la réalité. Par ailleurs, comme le propose le modèle d'interprétation de M. Côté, pour le virtuose, l'interprétation et l'exécution ont une relation obligée avec un auditoire lors de la recréation d'une œuvre. Le virtuose ne joue pas de façon neutre une œuvre pour le seul plaisir de découvrir entre les quatre murs, la façon de la découvrir entre les quatre murs de son studio, l'intention d'origine du compositeur. Il a plutôt comme objectif de rassembler ceux qui l'écoutent, de les mener à une transcendance purement musicale. L'assentiment de cet auditoire devient primordial pour apprécier la valeur de l'exécution et permettre à l'interprète d'atteindre un degré de satisfaction impossible autrement. Par conséquent, pour qu'une œuvre demeure vivante et traverse les siècles en gagnant en puissance, le virtuose, en plus d'une grande maîtrise technique de son instrument, comprend les fluctuations du goût des auditeurs et actualise son interprétation en prenant en compte les valeurs esthétiques du moment. Les auditeurs, personnes physiques et psychiques, vont à la rencontre d'une nouvelle interprétation de l'œuvre avec leurs connaissances, leurs méconnaissances, leurs préférences. Les auditeurs entrent ensemble dans un véritable rapport créateur avec l'interprète et le compositeur. Ils prennent la musique à bras-le-corps en se laissant pénétrer, bouleverser, en réagissant ou pas. Le style des interprètes tels que Caruso ou Kreisler s'avère peut-être évolué au regard des normes actuelles des auditeurs, mais tout laisse à prévoir que ces éléments du goût esthétique tomberont à leur tour en désuétude pour être remplacés par d'autres également éphémères. Plus concrètement, par exemple, dans les partitions de Schubert, de Beethoven ou de Bruckner, ils comprennent souvent des répétitions. Pour un auditoire moderne, en écoutant la messe en mi bémol, les divines longueurs de Schubert peuvent vite se transformer en pénibles langueurs. L'auditoire moderne peut comparer divers enregistrements et réécouter à sa guise les pièces en question, privilège que n'avaient pas les premiers auditoires. On profitait en concert de ces répétitions pour mémoriser les pièces. Le chef Alfred Brendel trouvait certaines répétitions inutiles et les enlevait à l'occasion. Dans une des rares entrevues que j'ai lues qu'il y avait avec Karajan, il disait qu'il faisait exactement la même chose et même plus encore avec certaines pièces de Beethoven. Plus délicate est toute la question de l'exécution des textes offensants pour un auditoire comme des lois injustes pour le juriste d'ailleurs. La juriste française Danielle Lochac, dans un article sur la neutralité de la dogmatique juridique à la lumière de l'expérience de la législation antisémite de Vichy, s'est demandé quelle doit être l'attitude des juristes face à une législation qui leur paraît moralement condamnable. Doivent-ils, au nom de la prétendue neutralité et objectivité du droit, évacuer tout jugement critique? Même si Danielle Lochac ne propose pas de solution concrète, elle affirme toutefois sa certitude que s'abriter derrière la neutralité de façade n'est ni une solution efficace, ni une solution honorable. dans le même ordre d'idées, on se rappellera comment l'appareil judiciaire allemand s'était rangé sans hésitation dans l'application des infâmes lois de Nuremberg de l'État nazi. Placés devant les mêmes dilemmes, on a vu des chefs d'orchestre rectifier quelque peu la partition d'une musique jugée raciste ou antisémite. On pense ici à l'opérette composée en 1885 par William Gilbert et Arthur Sullivan, deux Anglais, Mikado. Le chef d'orchestre bien connu Charles Maceiras a enregistré une nouvelle version de l'opérette en 1992 avec le Welsh National Opera Orchestra, ça c'est en Écosse, dans lequel il fut décidé de couper un couplet entier d'un air réputé, ça s'appelait Coco, Cao, Cao, susceptible de choquer l'auditoire contemporain en raison de son contenu raciste. Par ailleurs, le texte de la Passion selon Saint Jean qui a inspiré Jean-Sébastien Bach pour la composition de sa messe en si mineur a souvent été jugé injurieux et antisémite. En août 2000, le chef d'orchestre Helmut Rilling et le directeur du festival de Bach en Oregon ont dû faire face à de vives protestations lorsqu'ils ont voulu mettre au programme du festival cette messe en si mineur en commémoration du 250e anniversaire de la mort de Bach. Des lettres de critiques se sont mises à pleuvoir dans les journaux locaux et un rabbin local a même installé un piquet de grève à proximité de l'événement. Comme on attendait plus de 30 000 personnes et qu'on ne voulait pas s'abriter derrière une neutralité de façade sous prétexte que telle est l'attitude qui sied aux musiciens, le directeur du festival y a vu plutôt une opportunité d'ouvrir le dialogue. Ainsi, de nombreuses conférences publiques ont été tenues afin de situer l'œuvre dans le contexte historique et théologique de l'époque. Autre exemple, vous avez dû voir dernièrement, en septembre 2006, peu après la référence du pape Benoît XVI aux écrits d'un ancien empereur byzantin, Manuel II, paléologue, qui s'appelait « Sur la violence et l'islam », l'Opéra de Berlin décida d'annuler les représentations de l'opéra Idoménée de Mozart par crainte des réactions de fondamentalisme religieux. Dans une scène, le roi de Crète, Idoménée, apporte en effet les têtes tranchées de Poséidon, Jésus, Bouddha et Mahomet qu'il pose sur quatre chaises. Cette annulation fut très critiquée, y compris par plusieurs associations musulmanes allemandes. De fait, deux représentations furent ensuite exécutées, peut-être un peu modifiées. À notre époque, donc, le rôle social et la responsabilité des interprètes musiciens sont reconnus et le milieu artistique respecte de plus en plus la liberté créatrice de l'interprète. La transcendance de l'instant lors de l'exécution se trouve appréciée et valorisée. Le pianiste Edwin Fischer se voyait agir comme l'Hermès de François Host en parlant de ses interprétations et de ses réactions organismiques totales, ainsi que les nomme le psychosociologue américain Carl Rogers. Et c'est très, très charmant ce qu'il disait. Il dit, quand je joue, il dit, tous les liens se dénouent. Tous les complexes s'évanouissent et vous planez. On ne sent plus, je joue, mais ça joue. Et tenez, tout est juste. Le plus grand bonheur de l'artiste n'est plus qu'un médium, médiateur entre le divin, l'éternel et les hommes. Alors, on va voir maintenant s'il y a une évolution semblable en matière d'interprétation juridique. L'analyse des analogies entre le droit et la musique met en perspective la nature sociologique et psychique de l'art d'interpréter au sein des divers ordres sociaux. Dans cette optique, je rejoins la perspective évoquée par le professeur Pierre Noreau lorsqu'il affirme dans un article intitulé « L'acte de juger et son contexte, élément d'une sociologie politique du jugement » que l'interprétation en droit est de fait une lecture de la société et que sa mise en œuvre comporte inévitablement une réflexion éthique, c'est-à-dire un ajustement continu du droit à l'état des mœurs et des valeurs. Cette perspective nous semble confirmée par les travaux des professeurs Balking et Levinson, de même que par les travaux présentés en 2002 au symposium organisé par la Faculté de droit de l'École des beaux-arts de l'Université du Texas. Pendant un peu plus d'une semaine, plusieurs éminents juristes et artistes des arts scéniques se sont assemblés pour partager leurs visions respectives en matière d'interprétation des lois, de la musique et du théâtre. Entre deux concerts ou représentations théâtrales, les chanceux, ils ont échangé sur la façon de transformer l'encre d'un texte de loi, d'une partition ou d'un scénario en une action sociale complexe. À cet égard, en effet, la réalité actuelle, de par sa complexité, commande à l'interprète beaucoup plus que de la simple exécution conforme aux procédures établies. L'interprète de la loi, comme pour un musicien, alors l'interprète apprend à formuler d'autres questions, à sortir du conformisme ambiant, à devenir à la fois gardien des valeurs traditionnelles garantes de survie des sociétés et promoteur de nouvelles valeurs de développement. Il peut alors contribuer avec ses propres forces à la solution des problèmes de société qui nous confrontent et qui n'étaient pas prévus lors de l'adoption des lois. Ce nouveau type de personnalité, je l'appelle, à l'instar du psychosociologue Donald Shawn, le praticien réflexif. C'est une personnalité créatrice, soucieuse des cadres établis, mais aussi capable d'en adapter des valeurs essentielles aux situations qui engendrent les cas en l'espèce. C'est ce type de personnalité qui permet à l'État de droit de se perpétuer et de se renouveler constamment. Le juge fait alors le réducteur des conflits et le prometteur avec les acteurs sociaux et le législateur d'une remise en ordre du social toujours en train d'évoluer. On passe d'un état de l'ordre à un autre. François Hosse présente Hermès comme la figure du juge contemporain. Mais Hermès est essentiellement le médiateur, l'intermédiaire, le messager des dieux, celui qui parcourt les réseaux de la vie sociale. Comme praticien, il doit se faire l'acteur et, le cas échéant, le juge de l'ajustement mutuel, celui qui est moins le juge des individus que celui de la société, celui qui cherche les lignes de force qui rendent la vie sociale possible, qui recrée l'ordre au sein du désordre apparent. Hermès a tout avantage à côtoyer Euterpe, la déesse de la musique, celle qui joue de la lyre, dont les cordes vivent à la fois la tension de l'arc et leur détente sonore, les vibrations harmonieuses de l'interprétation. L'art d'interpréter est justement ce qui permet de réunifier les positions adverses, en conflit, au sein d'un nouvel ordre partagé. Ce nouvel ordre partagé, qui refonde le mutualisme, se constitue d'un ensemble mis à jour de principes, de standards, d'équité ou de bon goût, de même que de bon vouloir. Ces standards d'équité définissent le domaine du conciliable au-delà du conflit générateur de mouvement, de changement. L'ordre partagé nouveau constitue une résolution toujours à produire de formes en opposition. Comme en art, on trouve cette nécessaire alternance de la tension et de la tension apaisée. Le juge et l'interprète ont le devoir de réaliser l'harmonie des contraires, chère à Héraclite d'Éphèse. Si on veut bien replacer ce travail au sein d'un modèle des ordres sociaux, le juriste comme praticien réflexif est celui qui permet à la fonction étatique de produire les conditions de l'ordre et non de reproduire les désordres existants, devant les multiples situations conflictuelles que font naître les mouvements sociaux, les ordres juridiques non étatiques, les coutumes, les éthiques et les morales en émergence. C'est une pleine participation au jeu social auquel est convié l'interprète juriste dans un monde en pleine mutation. L'analogie avec la musique nous fait voir le travail du juge, du juriste, se réaliser dans une dimension de caractère artistique qui rejoint celle des arts scéniques plutôt que littéraires. Il développe une manière, un art de faire au plan juridique qui fait de lui un praticien réflexif, un créateur d'ordre. Il met en œuvre des facultés de l'esprit qui sont d'un autre sort que celui de la pure induction logique, celui du simple recours à une vision de type scientifique. S'il est vrai que cette autre dimension est moins facile à définir, elle nous apparaît d'une importance cruciale. Elle permet de faire le pont entre la rigidité des règles et l'acceptation de celles-ci par les justiciables lorsqu'elles sont correctement mises en œuvre et bien appliquées pour le cas en l'espèce. Un texte juridique, tout comme une œuvre musicale, ne peut se comprendre sans un engagement de l'interprète qui l'implique tout entier, non seulement par son intelligence, mais aussi par son imagination, sa sensibilité et son intuition. C'est ce que nous appelons la dimension présente, mais impalpable du droit, qui est, à mon avis, mise en œuvre par les juges quotidiennement. On en a conscience dans le milieu juridique, sans toutefois oser l'exprimer ouvertement. Le doyen Carbonnier, cité par Pierre Noreau, indiquait dans un ouvrage sur la sociologie juridique que beaucoup de jugements rendus par les tribunaux dits inférieurs sont des jugements intuitifs d'équité. Seul un homme qui a le sens musical peut comprendre un texte de musique et en interpréter les mesures, diront certains. Seul un homme qui a le sens de l'amour et de l'amitié, de la famille, du métier peut comprendre un roman, diront d'autres. Seul un homme qui a l'esprit juridique peut comprendre les textes de loi et les appliquer in situ, dirais-je. Une noble justice demeurera toujours étrangère à certains interprètes en raison de l'absence de tact, en raison d'une absence de tact sans lequel on ne peut deviner l'esprit du texte, l'appliquer, l'achever conformément à sa fin. L'intelligence de l'exécutant est fonction de son niveau de culture, non seulement comme la résultante de connaissances pures, mais plutôt comme une connaissance vivante du monde qui l'entoure et qui adhère à son être même. À mon avis, les qualités affectives et émotionnelles de l'interprète sont tout aussi importantes que son intelligence et de son sens pratique. Si elles venaient à manquer, l'inspiration juridique serait même coupée de sa source et l'interprète perdrait le pouvoir de saisir le texte qui doit être appliqué. Nous assisterions alors à des applications sans doute encore littéralement correctes, mais non vivantes ou adaptées du droit canadien. La distinction que je fais entre le raisonnement et l'esprit juridique se rapproche de celle que fait Pascal dans les pensées entre l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse. L'esprit de finesse opère par la saisie instantanée des choses qu'il faut voir d'un seul regard et non pas par progrès de raisonnement, au moins jusqu'à un certain degré. L'esprit de géométrie effectue une démarche déductive faisant appel à des définitions et à des principes rationnels précis. Ces deux types d'esprit sont des facteurs utiles à l'interprète qui doit se débattre pour arriver à dégager la finitude des textes juridiques. Riche de ces instruments, il pourra entreprendre avec plus de facilité un dialogue avec tous les intervenants dans le processus judiciaire ou juridique et fixer un sens qui fera l'objet d'un consensus acceptable entre les parties. Il y a tout lieu de croire que le juriste et le juge en exercice, tout comme tout être humain pleinement développé, doivent aussi pratiquer leur art en misant sur ce que le psychosociologue américain Carl Rogers appelait une réaction organismique totale. L'interprète est alors convié à la mise en œuvre de toutes ses ressources personnelles, affectives, intellectuelles, déontologiques, mais surtout, de façon prééminente, de ses ressources créatives et éthiques. Ainsi, le droit, figure de la raison, devient aussi une esthétique située, une éthique vivante, capable d'influer sur le développement social et humain. Hermès, Euterpe, réalisé et toujours renouvelé. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Jeanne Simard, pour cet exposé très intéressant. Ces allers-retours fascinants entre musique et droit, son et signe. Vous avez mentionné tout à l'heure la liberté du musicien de retrancher, de soustraire, même d'ajouter des fioritures et vous donner à rêver pour le juriste ici. Mais j'arrête ici et je suis persuadé qu'il y a des questions, des commentaires dans la salle sur cet exposé. Du Rocher.
Merci beaucoup, Mme Simard, pour cette conférence. Tout à fait remarquable. À la fois de musicienne et de juriste et de sociologue. Et je me retrouve beaucoup dans ma sociologie du droit, c'est-à-dire que j'enseigne surtout beaucoup dans ce que vous avez dit. J'avais deux questions. La première. Est-ce que l'interprétation musicale ou l'interprétation théâtrale n'exige pas beaucoup plus d'émotion de la part de l'interprète que l'interprétation juridique? On est dans un monde où l'émotion compte beaucoup et l'interprète musical communique de l'émotion. Tout comme au théâtre aussi. Si on n'est pas ému au théâtre, il y a un théâtre qui peut-être n'est pas destiné à nous émouvoir, mais il y a une part, me semble-t-il, d'émotion qui fait partie de ce monde artistique en quelque sorte. Et que le, je ne sais pas si Pierre-André Côté serait d'accord, mais il me semble que le juriste doit raisonner ses émotions, quelque sorte, davantage, enfin, les mettre peut-être plus en place. C'est ma première question. La deuxième, je suis frappé par votre historique de la musique, c'est une très belle historique. Je me demandais s'il n'y avait pas une coïncidence au Moyen-Âge entre cette normativité qui s'est installée dans la musique, en particulier, je pense, si je me souviens bien, dans la musique grégorienne, à quatre, avec la portée à quatre lignes, et l'invention du droit canon à ce moment-là, qui lui aussi est une normativité qui se veut une régulation de la vie des catholiques, des chrétiens, des monastères, du clergé, etc. Et les deux s'appellent grégoriennes, d'ailleurs. Oui. Il y a la réforme grégorienne de la musique et la réforme grégorienne dans le droit canon. Il y avait comme, certainement une coïncidence, plus qu'une coïncidence, il y avait là un mode de pensée régulateur.
C'était mon futur article. C'est mon prochain article. Je vais effectivement travailler avec le droit canonique. Et... Oui, alors effectivement, je regarde effectivement s'il n'y a pas des pistes dans ce sens-là. Alors, vous me confortez dans mon choix de prochain sujet. Alors, oui, je suis d'accord avec vous pour... mais ça, je pourrais peut-être... Je vous en reparlerai peut-être dans 5-6 mois quand j'aurai revisé le tout. Ce qui concernant votre première question, Monsieur Rocher, oui, vous avez parfaitement raison, mais qu'effectivement, peut-être le juriste, ça peut être, peut-être qu'il résonne ses émotions, mais il y a quand même une émotion à passer quand j'allais beaucoup, moi, dans les tribunaux de première instance. Et le taux émotif qu'il peut y avoir, effectivement, dans les tribunaux, les émotions, je vous dirais que c'est tout à fait, c'est à couper au couteau. Alors, le juge, effectivement, puis bien souvent, il y avait des collègues qui disaient au juge, faites attention, il fallait que le juge, d'ailleurs, je parlais à des juges, ils disaient, il faut faire extrêmement attention sur le plan émotif, il faut aller les chercher, il faut leur faire comprendre, il faut qu'on ait le senti de leur situation. Je dirais peut-être, c'est peut-être pas le cas avec en deuxième ou à la cour d'appel ou ailleurs, mais je sais qu'en première instance, je vous dirais qu'il y avait énormément d'émotions. Moi, j'en ai senti, en tout cas, j'en ai vu. Puis en discutant avec des juges, ils m'ont dit quasiment que c'était une partie de leur gros travail. 70% de leur travail était beaucoup plus quasiment émotif que je vous dirais que rationnel. Alors, ça aussi, il faudrait peut-être que j'aurais, ou c'était un autre sujet aussi, je voudrais voulu travailler avec des avec des psychanalystes. Pour voir effectivement toute l'analyse du processus d'interprétation, mais dans un point de vue plus psychanalytique. C'est un autre sujet, ça, que j'aimerais beaucoup, beaucoup travailler. Alors, oui, et aussi toute la question aussi de l'acte de création. Comment on toute la question de la création, comment on peut créer et comment ça se fait sur le plan psychosocial et psychanalytique. Alors, encore là, peut-être que je recommuniquerai avec vous dans quelques mois. Alors, mais je suis parfaitement d'accord avec vous quand même qu'il y a une différence. D'ailleurs, je le dis, hein, c'est des analogies. Et les analogies, il faut faire extrêmement attention. Je suis sur la pointe des pieds toujours. Je fais extrêmement attention pour pas faire des liens trop faciles. Mais c'était moi, j'ai travaillé beaucoup en interprétation musicale d'une fois parce que j'avais une formation de musicienne ayant baigné là-dedans toute ma vie. Et puis je suis tout petite, j'entends du chant grégorien à la maison. Je n'ai pas parlé du jazz ou des courants plus modernes, mais bon, alors, parce que c'est peut-être, je m'y connaissais peut-être un peu moins. Mais c'était pour me donner un recul que j'ai utilisé beaucoup l'interprétation musicale pour me faire comprendre l'acte d'interpréter. Mais je vous avoue que ce sujet-là est fort vaste et je dirais que c'est quasiment la réflexion d'une vie. Est-ce que Marc-André paraît effectivement comme sociologue?
Ah, en fait, je pensais exactement comme toi. Alors, en imaginant certaines situations, même si je ne vais pas assister comme toi à des plaidoiries ou à des... à des sessions de juges de première instance, mais j'imagine dans des cas de pédophilie, par exemple, d'adultère, des crises vanitaires, par exemple, d'une négro-démotivité qui existe dans la salle. Et le juge, à travers ses émotions qui avouent tout, doit arriver à faire comprendre un sens de l'équité et de la justice aux gens. Et cet effort de faire accepter une décision, une sentence, ça fait partie de son travail. Et là, vraiment, il est impliqué avec un autre histoire. Il faut qu'il sente ses jeux de réseau, ses jeux du social, et ce qui empêche les gens de se comprendre. Et il faut qu'ils aident à bâtir une solution viable pour les enfants. Ils vont même interroger les enfants sur un mode spécial, en les prenant en part, hors de toute influence, pour être sûr d'avoir vraiment un écho valable. Et donc, il y a certainement un travail qui n'est pas simplement un travail d'interprétation littéraire à ce moment-là. Mm. Il y a quelque chose qui engage toute la personne, et c'est dans ce sens-là qu'on a utilisé l'expression de Neil Schon, le praticien réflexif, celui qui, in situ, devant les cas d'espèce, est obligé de s'immerger là-dedans et de trouver le sens de l'équité. Il y a une autre recherche, je pense, je me demande si c'est pas celle du professeur Neuro qui disait que en première instance, par exemple.
Oui, ben c'est ça, effectivement. Carbonnier qui effectivement retrouve beaucoup de jugements intuitifs et d'équité.
Et on peut penser aussi aux 350 notions juridiques de caractère flou qui existent dans notre droit civil, par exemple.
Dans le code civil, oui.
Dans le code civil. Les notions d'agir en personne raisonnable. Ces choses-là ne sont pas si précises que ça et elles doivent être réinterprétées dans les cas à l'espèce.
Monsieur Côté, avez-vous...
Je voulais peut-être ici souligner l'importance entre l'interprétation et la justification de l'interprétation. Je pense qu'on s'attend des juristes qu'au moment de la justification, l'émotion ne soit pas nécessairement présente dans le jugement, mais je ne crois pas que... Et je comprends, Guy Rocher, que c'est peut-être un idéal que l'interprète ne cède pas à ses émotions, mais en même temps, on ne peut pas manquer d'observer que des jugements d'équité, et quand je parle d'équité, je parle donc dans un certain mise de côté du texte, de la loi, et des jugements en fonction d'un sentiment de compassion, par exemple, à l'égard de. Il y en a, puis il n'y en a pas rien qu'en première instance. Il y a quelques mois, la Cour suprême a rendu une décision qui ne peut s'expliquer que par l'équité. Pourtant, dans le jugement de la majorité, à aucun moment n'est-il question d'équité, de justice, etc. Mais il suffit de lire la dissidence et la juge dissidence, la juge des champs, hein, la loi est dure, mais le rôle du juge, c'est de l'appliquer. Mais la majorité ne dit pas la loi est trop dure, il ne faut pas l'appliquer. On ne peut pas dire ça, je vous parle du juge à la Cour suprême. Donc, il y a probablement lieu ici de faire la distinction entre l'émotion dans la décision et l'émotion dans la justification.
On n'en parle pas. Exactement, vous avez parfaitement raison.
Pardon. Moi, ce qui me frappe, c'est peut-être la place de l'émotion, finalement, qui est peut-être un peu plus... qui est présente, mais ce n'est pas dominant, je dirais, comme dans l'interprétation artistique.
Non, oui, d'accord. Oui, c'est
elle est
certaine.
C'est
la
double. Bien sûr qu'il n'excluerait pas...
Elle n'excluerait pas la
part de l'humain, d'abord, et de la... de différentes émotions. Chez le juriste, qu'il plaît, surtout dans certains tribunaux, on ne peut pas faire ça.
En fait, on peut se demander si revient la justification.
L'exécution
musicale, son but peut être de faire partager une émotion, de susciter une émotion. La justification de l'interprétation, son but est d'abord d'obtenir une adhésion. Mm-hmm. Au jugement.
On retrouve le rapport.
Et assez étonnamment, encore une fois, alors qu'on pourrait obtenir cette adhésion en faisant valoir les aspects émotifs du problème, il y a des facteurs qui vont faire en sorte que ces éléments-là vont être réprimés parce que ça ne correspond pas au modèle de la décision du juriste. Ben, les garçons ne pleurent pas, les juges ne parlent pas.
Madame, et Claude Fabien ensuite.
Bonjour, Bonjour. J'avais une question relativement aux aspects techniques des instruments en parallèle avec les nouvelles technologies en droit. Je veux savoir, en fait, si vous faisiez une association entre le débat lié aux aspects techniques dans l'instrumentation, par exemple l'interprétation des pièces baroques, alors que dans ce temps-là, il y avait des cuivres sans piston, où les matériaux des instruments étaient moins efficaces, et le débat lié à l'interprétation des lois précédentes, les nouvelles technologies, l'extension, est-ce que vous pensez qu'il y a un débat parallèle, dans le sens où vous semblez, côté musical, j'en comprends, laisser davantage, être d'accord avec la vision qui laisserait davantage d'espace à l'interprète.
Oui, absolument.
Donc, par exemple, quand on joue du Beethoven, même si on sait qu'à l'époque de Beethoven, il
n'y avait pas le fameux. Oui, exactement. Puis, il y a une note qui manquait, effectivement,
voilà,
en haut du clavier.
Est-ce que, au même titre, dans les nouvelles technologies, est-ce que vous prenez une interprétation des lois précédentes des nouvelles technologies, une extension, ou vous préféreriez, une création de nouvelles lois liées à ces nouvelles technologies-là?
Ah oui, ok, je comprends, les nouvelles technologies là, d'information,
oui,
tout ça
oui,
qu'on a effectivement. C'est sûr que moi, la façon que je le vois, c'est que c'est sûr que ce serait l'idéal qu'il y ait de nouvelles lois pour rafraîchir le tout. Mais moi, je serais portée à faire comme on joue présentement Beethoven, même s'il y a une note qui n'est pas là, je veux dire, on la met pareil, parce qu'effectivement, il y a eu une évolution, puis on ne peut pas se limiter aux instruments. Alors, moi, je veux dire, mais là, je serais peut-être osée, là, mais, mais effectivement, je serais plus dans votre seconde hypothèse. Moi, j'interpréterais effectivement les lois en fonction des nouvelles réalités. Ça voulait dire, on les actualiserait. Mais là, écoutez, je sais que je suis sur un terrain très glissant et très, c'est assez élevé comme ça.
Est-ce que c'est pas ce que le communion fait?
Non, je sais pas.
Non. Il est toujours placé devant des situations nouvelles.
Oui.
Peut-être que Claude Fabien.
Oui, cette discussion sur la table des émotions aurait livré à Dieu souffle un jour où vous allez faire du tourisme juridique au palais de justice de Montpellier. Par hasard, je suis tombé dans une salle de cour d'appel. Il y avait une série de causes civiles. Et j'ai entendu cinq plaidoiries qui étaient toutes tournées tout autour du contrat de mandat, ce qui me réjouissait.
Ah, bon Dieu, oui. Il y a beaucoup d'émotions.
À mon grand étonnement, je m'attendais à avoir un menu semblable à ce qu'on peut observer ici au Québec, mais non. Le droit était complètement absent de plaidoirie. Jamais on ne citait un auteur ou un texte ou de la jurisprudence. Tout cet aspect-là, cette dimension-là, était compris dans le cahier des conclusions qu'à un moment donné, le procureur, dans un geste solennel, déposait dans les mains du huissier. Alors, à quoi consacrait-il le temps d'oralité qui lui était attribué? L'émotion, le pathos, c'était un théâtre extraordinaire qui tenait à faire pour pleurer les juges sur le sort de Madame Veuve Latulippe, qui avait été victime évidemment de la violence de justice. Et on racontait les circonstances émouvantes de. Alors, non seulement c'était du théâtre, mais je me souviens de Trémolo, et là, ça confirme la musique. Alors, l'enseignement que je peux en tirer, c'est que, l'observation de la pratique judiciaire québécoise n'épuise pas la réalité. Il y a des manières de vivre le droit et de vivre même le droit civil qui peuvent être fort différentes. Et on a tous été piqués, je pense, par la mouche de la rationalité au Québec, et certainement dans le pays. On a beaucoup évacué la place de l'émotion. Encore que je suis heureux d'entendre que ça peut revenir, et certainement dans les affaires, la grande exception, ça doit être tous les problèmes de droit familial, des enjeux extra-patrimoniaux. L'autre aspect, c'est qu'il y aurait peut-être une motivité de bonne loi à ramener le fait qu'on peut donc évacuer dans la façon de plaider, en tout cas, le droit au Québec, et que c'est peut-être les professeurs de droit qui en sont largement responsables, hein, de tout placer au coin de la rationalité de la plus. Là. Mais j'avais une question qui n'a aucun rapport. Le lien entre le droit canon et puis la notation grégorienne, je trouve ça intéressant.
Oui, moi aussi.
Est-ce que le droit contemporain et la musique contemporaine. Est-ce que le désordre de nos lois et leur prolifération et leur déconstruction pourrait avoir un certain parallèle
avec la musique post-sérielle, oui, peut-être. Oui, parce que, oui, non, vous voulez me faire faire de la recherche là, pour les deux prochaines années. Non, vous avez aussi, il y a un parallèle qui est intéressant avec le droit canonique, puis peut-être aussi avec le droit contemporain. Mais encore là, je veux dire, c'est une recherche que je devrais faire. Et donc, encore là, je vous rappellerai dans quelques mois pour vous donner le résultat de mes recherches. Mais j'en prends bonne note et puis effectivement, j'aurais peut-être dû pousser. Je vais effectivement peut-être développer mes recherches là-dedans.
C'est juste une réponse intuitive.
Oui, oui, je suis d'accord. Oui, intuitive. Soyons émotifs. Vous avez parfaitement raison.
Mais pour le droit canon, c'est intéressant parce que le compendium de Gratien au XIIe siècle, c'est canon des canons discordants.
Oui.
Alors, il y a quand même là aussi quelque chose.
J'ai une partie de ma thèse qui est en droit canonique. Oui. Alors, il va falloir que je la dépoussière.
Mais
il y a simplement là-dessus, il y a quand même une œuvre de Max Weber qui porte sur la musique, parce que Max Weber a fait aussi un grand traité de sociologie de la musique.
Oui.
Dans la perspective de la rationalisation qui était celle du 19e siècle, et de la rationalisation pour lui du droit, à cette époque-là, vers le droit, la formalisation du droit. Et c'est pas sans analogie, d'ailleurs, chez Weber, dans son traité sur la musique, qui est un traité très difficile à lire, d'ailleurs, tout le développement rationnel de la musique du 18e, du 19e siècle, surtout à cette époque-là. Alors, c'est un désordre à ce moment-là, c'est un excès d'ordre.
Un excès d'ordre.
La musique du 19e siècle. Qui accompagnait à ses yeux un excès d'ordre dans le droit, mais aussi une formalisation du droit très marquée à cette époque-là pour vous.
Moi, je pense qu'effectivement, c'est difficile. Je pense que tous les courants se suivent. Je pense que la musique, que ce soit en droit ou dans n'importe quel domaine, je pense qu'effectivement, il y a toujours une ligne de pensée. Et puis, c'est pas vrai qu'il y a des distinctions. Là. J'ai l'impression qu'il y a des grands mouvements sociaux qui se font, puis que le droit est tapé, et la musique. Je suis parfaitement d'accord avec vous.
Une convergence. Est-ce qu'il c'est publié en français?
C'est très dur en français.
Vous nous donnez une piste intéressante. C'est très dur en français.
Le mec,
c'est
là.
Oui, c'est une belle traduction en
français. Encore le temps pour questions, des commentaires, Michel, Morin?
Juste sur un petit point de votre conférence qui était tout à fait passionnant. Vous me dites que, à propos de la liberté qui était accordée à l'interprète, je crois, à l'époque de la musique baroque jusqu'au 18e siècle, si j'ai bien suivi. Et je me disais, en parallèle avec une notion historique, que je ne voyais pas de convergence, ou en tout cas à première vue, mais c'est pour ça que je soulève la question ici, puisque dans le droit français, en tout cas, mais même peut-être un peu le droit anglais, on a plus une aspiration vers une sorte de normalisation, de centralisation dans le domaine juridique, d'uniformisation, et on voit en parallèle les espaces de liberté de création dans la musique. Alors que souvent, à nos égards, on peut trouver des évolutions semblables comme ce qu'on disait à propos du droit canon et la musique grégorienne et tout ça. Mm-hmm. Et, ben, ça me semblait juste curieux. Je voulais voir si vous aviez quelque chose d'autre. Si ça vous inspirait des commentaires ou des réflexions. Le fait qu'on ait valorisé cette liberté de l'interprète en musique et qu'on ait commencé certainement à la remettre en question à la même période. Mm.
Non, vous avez une question encore là à développement qui serait. Effectivement. Je n'ai
pas de piste de réponse.
Non, pas de piste de réponse.
On se retrouvait dans un an.
Plus tard.
Encore des questions, des commentaires. Écoutez, de toute façon, on peut poursuivre la discussion puisque je vous invite à venir. Prendre un petit verre de vin et de manière informelle à ajouter au programme de recherche de Jeanne Simard.
Non,
merci encore. Merci beaucoup.